preko sveta. Kao pčela mala, od sveta do sveta.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Jeudi Noir, et ce soir nous allons parler d'un peuple qui n'existe pas, ou qui existe trop, enfin c'est assez difficile à dire, les Roms. Et nous allons en parler avec quelqu'un qui supposément sait de quoi il parle, contrairement à nous, à savoir Martin Oliveira, donc, qui a écrit... Une imposante thèse sur les gabories à chapeau. Et je suis sûr que, comme moi, vous ignoriez totalement leur existence avant d'entendre ce mot, enfin ce nom. Pourtant, c'est des gens très intéressants. Mais bon, voilà, on les connaît pas. Nous, on les appelle les Roms, les Roumains, les Tziganes, les voleurs de poules, les emmerdeurs, tout ça. Enfin, nous. En France, oh,
toi, moi,
toi, tu te désolidarises. Ouais, c'est pas ce que tu disais la dernière fois. Et donc, ben, on va essayer de nous d'en apprendre un peu plus, et puis ben, on espère aussi vous en apprendre davantage. Alors, comme José, notre chef d'orchestre secret et caché, aime faire de la provocation, vous allez voir pourquoi. Le premier morceau que vous avez entendu après notre jingle, c'était Jelem Jelem, interprété par Esma Redzepova. Ça vient de Macédoine, semble-t-il. Alors, bon, déjà. Martin, dis-nous, un, est-ce que les Roms existent? Et deux, pourquoi cette chanson est une provocation en rapport avec cette question justement de l'existence d'une espèce d'entité rom indissoluble.
Ah bah, c'est bien, on commence directement. Est-ce que les roms existent? Manifestement, mais pas de la manière dont on l'imagine, en tout cas. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus, je pense. Pourquoi c'est une provocation? Parce que cette chanson a été instaurée comme hymne national du peuple rom il y a une trentaine d'années maintenant. Avec l'idée que c'est un peuple méconnu, qui a une culture avec un grand C qu'il faut mettre en avant, une histoire avec un grand H qu'il faut aussi mettre dans des livres, voilà, une origine avec un grand O qui est le nord de l'Inde, etc. Bref, un discours de type national, nationaliste, qui a émergé dans les années 70 et qui s'est renforcé auprès de peu de personnes, mais qui a pris de la surface dans le champ public dans les années 90-2000, et un discours de type ethno-national qui est finalement assez éloigné des réalités concrètes, quotidiennes, des gens qu'on appelle les Roms, ou les Tziganes, ou les Gitans, les Bohémiens, les Romanichels, et qui eux ont d'autres manières de fabriquer des identités collectives, pour le dire bêtement, simplement, que celui du discours national ou ethnique, qui en général leur est tout à fait étranger. Voilà, quand vous demandez à un Rom s'il vient d'Inde, en général il vous dit oui, peut-être si tu veux mon ami, parce que c'est ce que j'ai lu moi aussi dans les journaux comme toi, mais non, je viens de tel endroit, de tel village, de telle ville, de tel pays, etc., etc. Voilà, donc il y a un décalage entre cette représentation assez simpliste de les Roms sont un peuple originaire d'Inde qu'ils ont quitté 1000 ans, et les réalités locales, concrètes, quotidiennes des individus et des familles qui sont catégorisées de cette manière là
c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'influence de savoir.
Moi, je ne sais pas où étaient mes ancêtres il y a 1000 ans, concrètement. Vous deux, je ne sais pas non plus.
J'en sais rien.
Ouais, moi, oui.
Toi, je pense que tu sais, Jean-Mathias. Ouais.
Il frime toujours, Jean-Mathias. Alors, Jean-Mathias, tu as un petit papier avec plein de notes.
Oui,
donc c'est toi qui vas poser des questions intelligentes.
Oui, il y en a qui, il y a ceux qui travaillent. Bon, bref. Donc, alors, Martin, en tout cas, on est très, très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Notamment parce que, donc, tu as travaillé sur les Roms, donc, déjà depuis pas mal d'années. Et comme l'a indiqué Michel, tu as même fait une thèse là-dessus, qui a été publiée aux éditions Petra, je le signale quand même. Un travail qui s'appelle « La tradition de l'intégration », donc je suppose que c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Hein, voilà. Donc « La tradition de l'intégration ».
Pour une somme modeste.
Pour une somme, voilà. Modeste au regard de la qualité. On va parler aussi un petit peu ce soir d'un petit bouquin qui a été publié aux éditions de la Rue d'Ulm. Alors là, c'est beaucoup plus, un peu plus chic, mais passionnant, faut le dire, qui s'appelle Rome en bidonville également. Donc c'est une conférence que tu avais faite là-bas. Et donc en fait les Roms, c'est ton sujet de travail, mais c'est sans doute aussi un petit peu plus que ça. Et est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer un petit peu comment tu en es venu toi à travailler sur les Roms, même si tu viens de nous dire que c'était une catégorie qui était un petit peu compliquée et qu'il fallait préciser un petit peu. Comment t'en es venu à travailler là-dessus? Et au fond, si j'ai bien compris, t'as quand même passé pas mal de temps, notamment auprès d'un groupe rom de Roumanie. Donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots rapidement?
Oui, bien sûr. J'ai pas travaillé, je travaille pas sur les Roms en tant que, puisque ma formation c'est l'ethnologie ou l'anthropologie, et l'ethnologue il a ceci de particulier qu'il travaille que sur des individus, des personnes qui sont à un moment donné dans un lieu donné et avec qui il peut avoir des relations personnelles. C'est le principe du fameux travail de terrain. Donc les Roms, je sais pas, j'ai jamais travaillé dessus, je travaille jamais dessus en tant qu'anthropologue. En tant que science politique, historien, c'est autre chose. On peut avoir d'autres objets, mais pour l'ethnologie, les Roms précisément, ça n'existe pas. On a affaire qu'à des groupes différents les uns des autres, avec des parcours, des histoires, des statuts socio-économiques, des traditions différentes. Donc j'ai effectivement travaillé dans le cadre de mes études, depuis maintenant une quinzaine d'années à peu près, sur des familles en Roumanie, en Transylvanie plus précisément, donc une région à majorité hongroise dans certains coins, et sur des familles qui se relient à d'autres familles et qui tout ensemble se dénomment d'une manière particulière et se disent « nous, les Gabors » ou « Gabori » si on dit le « i » à la fin. Et parfois ils disent aussi « nous, les Roms ». Mais quand ils disent « nous, les Roms », ils ne renvoient pas à une minorité ethnique nationale en Roumanie, constituée de centaines de milliers de personnes, encore moins à une minorité européenne. Quand ils disent « nous, les Roms », ces gens-là, quand ils parlent, ne parlent que des leurs, les nôtres, comme on disait dans le temps jadis, c'est-à-dire les gens avec qui ils ont des relations de parenté par le mariage ou par l'affiliation, c'est-à-dire par les liens du sang. Et cette communauté, pour utiliser le vilain mot, la communauté des Gabor, ou la nation des Gabor, comme ils disent eux, ça ferait quelques milliers de personnes. Donc mon objet, on va dire, d'étude en ethnologie, c'était ces Roms-là, dans ce lieu-là, pendant une quinzaine d'années, donc fin des années 90 et les années 2000. Voilà, donc ethnologiser les Roms, c'est parfaitement impossible, c'est-à-dire que tenir un discours générique sur les traditions, les valeurs, la culture, l'histoire des Tziganes ou des Roms en général en Europe, ça n'a finalement pas beaucoup de sens. Voilà. Après, j'ai été amené à m'intéresser à d'autres questions qui ressortent pas forcément que de l'ethnologie, mais ce qu'on appelle la question des Roms, et qui, elle, n'a rien à voir avec les gens qui se disent Roms, qui parlent romanesque et qui peuvent avoir des identités collectives un peu diverses et variées. La question des Roms, c'est une question des non-Roms. C'est la question posée, fabriquée, que certains Roms appellent les gadgets. Mais c'est une question construite par les non-Roms pour des raisons particulières, dans un contexte particulier. Et là, c'est une autre forme d'ethnologie. C'est plus tant l'ethnologie des Roms que l'ethnologie des élus locaux, des travailleurs sociaux, des citoyens militants, etc., etc., de tous ces gens non-Roms qui fabriquent, co-fabrique un problème public depuis un certain nombre d'années et qui essaye d'y apporter des réponses. Alors on pourrait dire qu'ils essayent d'y apporter des réponses pour maintenir la question ouverte, on a l'impression, depuis 15 ans, 20 ans. Mais voilà, cette autre forme d'ethnologie n'a rien à voir finalement avec l'ethnologie des Roms.
Et donc toi, ton idée, au fond, là, si je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, c'est qu'au fond, s'il s'agit de cette question Roms, dont effectivement nous rabat un peu les oreilles à longueur de temps, et notamment quand il y a des scrutins municipaux dans les mois qui viennent, donc c'est un peu la situation dans laquelle on est, d'après toi, si j'ai bien suivi, au fond, c'est au fond une question qui pourrait être comprise, si on veut parler de la réalité des populations, des communautés ou des groupes qui sont concernés par ces politiques publiques-là, en fait, il faut replacer ça donc, dans un contexte, déjà dans une chronologie, c'est-à-dire c'est une question qui se construit depuis une vingtaine d'années, en gros depuis la chute du mur de Berlin et puis l'effondrement des régimes communistes. Et puis, au fond, ce qui t'a intéressé, si j'ai bien compris, dans cette question-là, c'est que c'est une manière, comme une autre, c'est pas la seule, mais effectivement d'occulter finalement une question qui est celle de la pauvreté à l'intérieur de l'Union européenne, et aussi des différentes formes d'exclusion qui sont produites dans ces pays-là, avec aussi une occultation de certaines évolutions qui sont propres aux villes, notamment en Europe occidentale, et à la manière dont elles se font. Donc c'est un petit peu, si est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage là-dessus, au fond, sachant que, si j'ai bien compris, toi tu abordes cette question de l'immigration Roms. On va peut-être dire un mot d'abord sur les différentes catégories, des questions de vocabulaire qui se posent, parce que c'est des questions qui sont importantes. Et toi, ton idée, c'est de replacer ça, finalement, cette immigration, dans une immigration finalement assez classique en réalité, une immigration de la pauvreté qui est ni nouvelle, ni spécifique en fait.
Absolument. Alors si on veut reprendre du début, sans aller jusqu'à Mathusalem, mais effectivement pour mettre de l'ordre, la catégorie Roms aujourd'hui, telle qu'elle existe depuis une vingtaine d'années dans les institutions européennes, et puis depuis 5, 6, 7 ans dans le sens commun, parce qu'il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était un Rome. Hein. C'est maintenant tout le monde pense savoir ce que c'est, une opinion là-dessus, c'est bien, c'est pas bien, il faut les aider, il faut les dégager. Bon. Donc c'est devenu très rapidement un objet commun, une représentation collective très familière en très peu de temps. Et cette catégorie, Roms, qu'on peut détacher totalement des gens qui se désignent comme tels, hein, parfois ça correspond, parfois non, elle sert à faire du tri, pour le dire très vite, parmi les semblables. Alors aujourd'hui, parmi les ressortissants communautaires, nouveaux citoyens européens de la communauté européenne, roumains bulgares. Faire du tri pour choisir ceux qui sont les bons pauvres, les mauvais pauvres, les bons migrants, les mauvais migrants.
Mais ils espéraient que seuls les riches de la City allaient venir en France ?
Oui, ils essayent en tout cas.
on s'y emploie.
Il y a des libertés de circulation à différents niveaux. Mais en tout cas, symboliquement, c'est vraiment une manière de faire du tri, et on reviendra après. Et c'est à la fois donc une catégorie très récente et en même temps ancienne. Et c'est pour ça qu'elle a pris très vite, hein, et qu'elle s'est, elle a été finalement pas créée mais réactivée dans les imaginaires nationaux au cours des années 90 très très rapidement, puisque elle se base et elle est le prolongement de l'autre figure qui était la figure d'Etzigan, qui existe depuis au moins le début du 19e siècle en Europe. Quand je dis qu'il faut remonter à l'origine, c'est là qu'on va s'arrêter, pas plus loin, puisque la catégorie tzigane n'existe pas avant la toute fin du XVIIIe siècle. C'est une construction savante de l'Europe d'abord occidentale, à la fin des années 1780, mais surtout au cours du XIXe siècle, à l'heure de la construction des États nationaux. Les groupes qu'on va tous mettre dans cette grande catégorie de tziganes, en français ou gypsies en anglais, jusque-là, ils avaient divers noms, on n'essayait pas d'expliquer pourquoi ils étaient là. Il y avait des explications mythologiques, mais voilà, il n'y avait pas une entreprise savante pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Et on n'essayait pas tous de les faire rentrer dans le même sac. C'est vraiment une question nationale qui se pose au XIXe siècle, quand tous les États-nations mettent en place leur idéologie nationale, hein, le mythe de l'autochtonie, de la continuité depuis l'Antiquité, les Gaulois, les Pictes, et patati et patata. Dans ce grand pataquès idéologique, mais aussi un pataquès socio-économique, c'est des grandes transformations sociales et économiques de la main-d'œuvre, prolétariser les paysans, mettre fin aux solidarités collectives locales pour faire entrer tout le monde dans l'État national avec sa redistribution pyramidale, etc. Dans ce grand pataquès, dans ce grand chamboulement, il y a des groupes sociaux qui posent problème, tout à la fois à la rhétorique, ils sont peut-être un peu plus bronzés, ou alors ils ont des habits bizarres, bref, ils n'ont pas l'air de descendre des Gaulois, si on reste en France, et en même temps, ils ont aussi un mode d'organisation économique un peu différent, parfois, pas tout le temps, mais bon, pour diverses raisons, pas toujours les mêmes, ils posent problème. Et donc, les savants, je le fais vite, hein, dès le tout début du 19e siècle, se disent, mais si ces gens-là, même s'ils ont toujours été là, parce qu'à l'époque, on n'imagine pas qu'ils viennent d'ailleurs, ils ont toujours été là, mais ils ne sont pas comme nous, ça veut bien dire qu'ils viennent d'ailleurs. Voilà, c'est un peu le piège de la pensée ethno-nationale, hein. Les gens s'identifient en fonction de leur lieu d'origine. S'ils sont pas comme nous, c'est qu'ils viennent d'ailleurs. Et assez rapidement, donc, les savants vont s'intéresser à certains de ces groupes qu'on appelle tziganes à l'époque, pour trouver leur origine. Donc, vont étudier la langue. Là aussi, je reviens pas là-dessus, mais dans la pensée ethno-nationale, la langue, c'est un truc fondamental pour définir la culture avec un grand C. Et assez rapidement, vont trouver une parenté entre la langue parlée par certains de ces tziganes-là et des langues parlées dans le nord de l'Inde. Ça, c'est fondamentalement le bingo ou le l'eureka fondateur de ce qu'on appelle maintenant la tziganologie de l'époque, puisque c'est ça qui fabrique de manière érudite la catégorie tzigane au 19e siècle. Ce sont des Européens qui ne sont pas Européens, puisqu'ils sont venus, il y a sans doute très longtemps, mais peu importe, de l'Inde. Donc, de suite, une forme d'altérité fondamentale. Voilà, c'est le principe. Ils ont toujours été là, mais ils ne sont pas d'ici. Donc, une illégitimité aussi sur le caractère de leur présence. Et cette découverte ou invention, ça dépend du point de vue, de l'origine indienne des tziganes, eh ben, elle est toujours validée aujourd'hui dans les discours experts et savants la plupart du temps, mais surtout dans les discours institutionnels. Si vous regardez les textes du Conseil de l'Europe ou d'autres grandes ONG ou de l'UNESCO, etc., à chaque fois, c'est les Roms, on ne dit plus tziganes maintenant, c'est une question de politiquement correct, mais ça désigne la même chose. Oui, les Roms.
Il y a eu des versions en allemand de la chose.
Voilà, tout à fait. Sont un peuple originaire d'Inde qui est arrivé en Europe aux alentours du 12e ou du 13e siècle. Voilà.
Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, depuis le départ, cette catégorie-là, c'est le caillou dans la chaussure des États-nations européens.
C'est à la fois un caillou, mais un caillou utile. Mmh. C'est-à-dire que c'est un caillou nécessaire à la construction des identités nationales aussi. Mmh. Puisque...
Regardez-le, il n'est pas comme nous.
Voilà, et en même temps...
Donc nous sommes.
Et au-delà de ça, nous-mêmes ne sommes pas comme nous-mêmes. C'est-à-dire que la diversité des États qui deviennent des États-nations, elle est quand même assez fondamentale. Mmh. Si on reste d'un point de vue juste culturel ou linguistique, la France de 1850, la moitié de ceux qui sont des Français ou qui vont le devenir ne parlent pas français ou mal. Donc, pour fabriquer le nous, il y a des catégories de population, des groupes sociaux qu'on a besoin de maintenir dans l'altérité, parce que tout le monde ne rentre pas dans cette identité fantasmée de la nation.
Ouais, c'est un truc
donc,
que tu dis,
c'est un caillou, mais un caillou nécessaire. C'est assez rigolo de voir comment dans les littératures nationales émergentes, c'est vrai en France, mais dans le cas roumain, c'est encore plus illustré, encore plus fondamental.
Tu cites des passages assez éclairants dans ta thèse.
Les premiers textes de la littérature nationale roumaine parlent des tziganes. Pour dire c'est pas bien comment ils sont, il faut les civiliser, etc. Mais ils sont nécessaires à la fondation de l'identité nationale roumaine. C'est un alter ego, certes réprouvé, avec de la pitié ou de la haine, peu importe, mais réprouvé, mais fondamental à l'affirmation nationale en Roumanie. Mais c'est valable dans toute l'Europe à la même époque, avec des formulations diverses selon les lieux.
Et c'est ce que tu dis quelque part. Tu dis que voilà, le tzigane, c'est vraiment la figure qui aide les gadjés, donc les non-tziganes, à se penser aussi comme des modernes aussi souvent. C'est-à-dire qu'effectivement, ça sert. Voilà, c'est un repoussoir qui sert à se construire. Une identité comme ça. Est-ce que, juste peut-être avant qu'on fasse une petite pause, est-ce que tu peux faire un point sur les questions de vocabulaire, sur les termes qui sont utilisés? Est-ce que tu as employé le terme de tzigane, de rome, mais aussi, il est aussi souvent question de gitan, de manouche, etc. À quoi ça renvoie ça rapidement? Est-ce que tu peux nous préciser ça aussi?
Alors si on reprend la filière tziganologique, dont j'ai rapidement exposé l'origine au début du 19e siècle, assez rapidement, les tziganologues, donc ceux qui se constituent comme experts de ce nouvel objet qui sont les tziganes en Europe, essayent de mettre de l'ordre dans ce grand machin, parce que de fait il y a des différences entre les uns et les autres. Et donc selon la tziganologie, assez rapidement on en vient à identifier trois sous-ensembles, dans le grand ensemble tzigane, trois sous-catégories distinctes correspondant à trois parcours européens différents. Un premier sous-ensemble qui sont les gens qui se disent gitans, gitanos en espagnol, ou calais, qui sont les tziganes de la péninsule ibérique, Espagne, Catalogne, je distingue de l'Espagne, par respect pour mon père, Portugal, qui sont donc des méridionaux de ce qu'est aujourd'hui l'Espagne et le Portugal, et qui sont là-bas, grosso modo, depuis le 14e siècle, 15e siècle, et de manière fixe. Pas de nomadisme ou de mouvement. Il y a une migration par la Méditerranée, probablement de gens qu'à l'époque on n'appelait pas des gypsies ou des ritanos, mais des grecos ou des albanais, enfin les termes, et qui sont devenus après ritanos, et qui sont installés dans cet espace européen là, méridional, du sud-ouest, les gitans.
Okay.
Deuxième sous-ensemble, les gens qui se disent manouche, comme ils disent, ou sinté, qui sont les tziganes germaniques, qui s'installent à peu près à la même époque dans ce qui est aujourd'hui l'Est de la France, les Vosges, l'Alsace, la Lorraine, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse un petit peu, la Bohème, d'où le nom de bohémien pour certains, donc l'Ouest de la République tchèque, et qui sont donc là aussi depuis la fin du Moyen-Âge, le début de l'époque moderne, présents dans cet espace germanique du centre-ouest de l'Europe.
Et sédentaire.
Là et encore, alors là, pour les manouches et sinté, des alternances de fixation et de non-fixation, et certains groupes qui sont prestataires de services pour les armées des princes à l'époque, et donc qui bougent, et qui peuvent être a posteriori qualifiés de semi-mobiles ou autres, mais comme tout un tas de populations à l'époque moderne d'ailleurs. Voilà. Mais le fameux nomadisme de ces groupes-là, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus récent.
D'accord.
Et la troisième catégorie, qui est numériquement beaucoup plus importante, puisque les deux premières sous-catégories font moins de 10% de l'ensemble, hein. Ce sont ceux qui se disent Roms et qui parlent romanès, la langue des Roms, le parler des Roms, qui sont des tziganes d'Europe centrale, orientale et balkanique, ceux qui ont fait le moins de chemin dans la perspective tziganologique, si on garde la grande flèche de l'Est vers l'Ouest, et qui sont donc présents de manière plus importante dans les pays qui sont aujourd'hui la Roumanie, la Bulgarie, l'ex-Yougoslavie, la Hongrie, la Slovaquie, un petit peu la Pologne, la Russie, etc. Mais, une implantation là aussi depuis au moins le début de l'époque moderne et la fin du Moyen-Âge. Voilà, donc c'est les trois sous-catégories qui permettent de retrouver des noms qu'on connaît après par ailleurs, et qui dans la pensée tziganologique permettent de mettre de l'ordre, un petit peu de diversité, tout en maintenant le tout comme cohérent et voire nécessaire.
D'accord. Et les gens du voyage, alors?
Les gens du voyage. Tu voulais pas mettre de la musique,
hein? C'est une quatrième, non, parce que c'est vraiment... je trouve que c'est précieux de faire ces distinctions-là, parce que c'est une telle bouillie à longueur de temps.
Même si c'est rapide, les gens du voyage, ça rentre pas dans ce joli tableau.
Ziganes, en fait.
Ça peut, ou pas. Ça rentre pas dans ce joli tableau, puisque c'est quelque chose de franco-français, et c'est une création administrative de la Troisième République. Là, on est dans la percolation du tri des semblables. On a eu une création d'une catégorie vieille savante érudite au début du 19e qui percole dans la littérature, qui devient un petit peu un objet des représentations populaires, et puis qui après petit à petit, un peu comme aujourd'hui avec les Roms, devient un objet de politique publique. Et en France, c'est très marqué, dès la fin du 19e siècle, on décide que ceux qu'on appelle à l'époque des nomades, on ne dit plus romanichel ou bohémien ou boumian, ou les termes populaires, on fabrique une catégorie administrative, les nomades, qu'ils le soient ou pas d'ailleurs, mais qui sont perçus comme a priori des asociaux par nature, voire des parasites, et donc qu'il faut contrôler tout en maintenant à distance. C'est la fin du 19e siècle avec des premiers recensements des nomades en France, et c'est drôle, on en revient au même chiffre qu'aujourd'hui, une vingtaine de milliers à l'époque sont recensés, j'ai plus la date du recensement, mais c'est le même ordre de grandeur. Et ces nomades-là, en 1912, on leur fabrique un statut juridique particulier. Ils sont français, citoyens français pour la grande majorité d'entre eux, mais relèvent d'une loi particulière, loi de 1912, sur le régime des nomades, par laquelle on arrive à fabriquer des modalités donc de maintien à distance et de contrôle étroit en même temps. Et c'est avec la création du fameux carnet anthropométrique. Le carnet anthropométrique, c'est l'ancêtre à la fois de la carte d'identité et du casier judiciaire. C'est le développement des techniques policières de l'époque, le perquisitionnage, etc. Une belle idée. Et c'est le premier document administratif de ce type-là. Il n'y a pas de carte d'identité nationale à l'époque, il n'y a même pas de passeport, ça n'existe pas. Mais pour les nomades, on fabrique le carnet anthropométrique, qui est un document à la fois personnel et collectif.
C'est-à-dire
que il est individuel pour les adultes majeurs, mais en même temps, il y a aussi un carnet collectif familial qui implique et qui contraint à une mobilité familiale, puisqu'il faut que les gens puissent être contrôlés au même moment tous ensemble, sous peine de s'exposer à des représailles. D'où la fameuse roulotte, et non mais concrètement, d'où la fabrication d'un nomadisme familial, alors que les gens pouvaient être présents sur les mêmes territoires depuis des générations et des générations, avoir des mouvements de travail pendulaires dans la ville d'à côté, à 50 km, entre grands, entre adultes, etc. Là, on a la création d'une mobilité familiale, collective, par la loi. Comme aujourd'hui encore avec les Roms qu'on évacue des bidonvilles et on fabrique des nomades. Voilà, donc cette catégorie de nomades, sans rentrer là encore dans le détail, elle existe jusqu'en 69. En 69, on se dit c'est peut-être un peu too much le terme nomade et le carnet anthropométrique, c'est un peu quand même l'artillerie lourde. Donc on fait un petit lifting, on ne les appelle plus des nomades mais des gens du voyage, c'est comme les nains et les personnes de petite taille. Hein.
C'est mieux, ouais. C'est
comme les Esquimaux et les Inuits. ce n'est plus un carnet anthropométrique, c'est un livret de circulation qui est un tout petit peu moins exigeant, qui n'est plus... Alors, parce qu'il y a deux choses très très importantes dans le régime des nomades. Le fait qu'il est héréditaire, quand vous naissez le régime des nomades...
Ça, c'est dans le droit français.
Oui, c'était. Ça ne l'est plus. Depuis 69.
Depuis 69.
Mais de 1912-69, ça l'était. Troisième République, hein. Mm-hmm. C'est pas un régime fasciste qui l'a fabriqué.
Pour tous les nostalgiques.
Voilà. Donc, héréditaire, congénital, si vous voulez. Vous y naissez, vous y restez. Mm-hmm. Et vous ne pouvez pas en sortir. Sauf par la mort, mais c'est plus très intéressant. Voilà. Donc, ce sont deux caractéristiques très très importantes qui fabriquent des généalogies et qui fabriquent aussi, pour les intéressés, des identités culturelles particulières, en réponse ou en adaptation. Sans, peu importe d'ailleurs leur origine ethnique, parce que dans ces fameux nomades qu'on a mis au début du XXe siècle, il y avait des gens qu'on pourrait qualifier de tziganes, parce qu'ils étaient manouches de l'Est de la France ou venus d'Allemagne, ou qu'ils étaient même déjà dès l'époque des Roms venus d'Europe centrale et orientale dans le cadre de grands mouvements de population. Mais il y avait aussi des autochtones, je mets des guillemets là, vous voyez pas, des fameux autochtones qui, parce qu'ils étaient identifiés comme localement problématiques, asociaux ou autres, étaient rentrés dans, comme nomades dans la catégorie administrative. Donc ça fait là aussi un gros melting pot. Donc cette catégorie gens du voyage est directement issue de la catégorie des nomades de la Troisième République. Et quand on dit que les villes de plus de 5000 habitants depuis la loi Besson de 1990 doivent fabriquer des aires d'accueil pour les gens du voyage, et certains rechignent, mais pourquoi, c'est dégueulasse, dépenser de l'argent public alors que c'est eux qui ont choisi leur mode de vie, patati patata, il faut plutôt se rappeler qu'il y a une continuité en fin de compte directe. C'est pas une mesure de solidarité ou d'altruisme, c'est une mesure là aussi de contrôle dans le maintien à distance. Quand vous désignez des lieux pour que les gens s'installent, ils peuvent pas même y rester autant qu'ils voudraient. c'est, on les maintient dans de la circulation, tout en leur assignant des places, comme ils disent, une place, où ils sont encadrés, où ils doivent payer, où il y a un gestionnaire, etc. etc. Mmh. Voilà. En plus, ça fait vivre une belle économie parallèle dans la gestion des aires, mais ça, c'est une autre question.
Voilà, donc on va vous passer un peu de musique. Tiens, Martin, tiens, prononce ça, parce que moi, mon accent roumain est épouvantable.
Bah, tu pourras faire un effort, c'est Romy Capuciano.
Voilà.
De Roumanie, donc. Et je n'arrive pas à lire le titre, mais ça doit être très bien quand même.
Aș munce la plug și coase, aoleu, măi. Măi, fată dragă, nu mai să te am acasă. Să mori să mă prepădesc. Fată dragă, te-am iubit și te iubesc. Să mai vii o damigeană și o bucată de pastram, să mă îmbăt în astă seară, cam un foc pe inimioare. Așa mă! Ia-uzi! Hopa! Hopa! Măi, fraților, de când iubesc, aolei, măi, măi, că dragă, am speriat un județ. Aș iubit-o ta și mai vrea. Nu mi-ajunge, frățioare, dragostea. Să mai vii un kilogram și o bucată de chefal, să fac chef în astă seară, că mă frige pe inimioare. Așa ia-uzi. Vara când perinul crește, topește. Aș iubit-o ta și mai vrea, și mai vrea. Nu-i frip de frățioare inima, să mai fie o damigeană și o bucată de pastram, să mă îmbăt în astă seară, cam un foc pe inima rămâi.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend, donc avec Jean Mathias qui pose des questions de 5 minutes.
J'invite les auditeurs à chronométrer pour couper court à cette rumeur qui est en train de
prendre corps. Donc José, voilà, qui fait des choses, plein de choses. Votre serviteur et Martin Oliveira, notre invité. Qui a publié une thèse que vous trouverez peut-être un peu partout.
C'est un livre.
Donc La tradition d'intégration, une ethnologie des Roms Gabori ou Gabor dans les années 2000, édition Petra. Voilà, donc c'est une vraie thèse, hein, mais c'est important.
Mais il y a des illustrations.
C'est intéressant, il y a plein de choses. Non, mais il y a surtout plein d'informations, il y a des bonnes blagues, et puis on apprend des choses, c'est toujours utile. Voilà, et ensuite, donc un deuxième livre qui est issu d'une conférence donc, de Martin Oliveira, toujours Rome en bidonville, aux éditions Rue d'Ulm. Donc, ça, c'est déjà un petit peu plus chic.
C'est beaucoup plus petit
et c'est beaucoup plus court.
Et c'est
beaucoup plus
court et tout à fait clair.
Et c'est tout à fait clair aussi. Voilà. Donc, alors Jean-Mathias, est-ce que tu avais une autre question de 5 minutes à poser?
Oui, moi j'ai une question de. Alors je vais faire court comme d'habitude. Donc, ce que tu viens de nous dire juste avant la pause musicale, là, c'est qu'au fond, bon, alors on parlait des gens du voyage, mais que il faut aussi de la même manière qu'il faut faire attention à pas parler des Roms en général et qu'on a vu que voilà, finalement, c'est surtout sur des solidarités locales et des réseaux familiaux qui sont hérités voilà, aussi de structures sociales rurales. C'est comme ça qu'il faut effectivement comprendre la réalité des populations roms. Je voudrais que tu nous dises deux mots aussi sur un autre cliché en fait qui tourne autour des Roms et qui tient à leur statut en quelque sorte intrinsèquement nomade. Alors, est-ce qu'on a affaire à une population qui est intrinsèquement nomade, qui a la bougeotte et qui, depuis la nuit des temps, circule sur nos routes et nos terrains de camping?
Or donc.
Illégaux.
De manière illégale, oui. voire illicite. Oui. Je ne connais pas la différence d'ailleurs, illégal et illicite.
Peu importe.
Évidemment pas. Si on garde la grande catégorie qu'on disait Tigane avant, Rome aujourd'hui depuis les années 90, ça fait à peu près entre 6, 8, 10, 12 millions de personnes en Europe. Donc on a bien compris qu'ils appartiennent à des groupes locaux très divers et variés qui ne se reconnaissent pas nécessairement comme semblables, hein, c'est ça qui est fondamental. Un gitan de Perpignan n'est pas forcément un frère ethnique d'un Rome de Roumanie, loin de là.
T'as que Valls et puis aussi tous les acteurs locaux pour parler des Roms en général.
Beaucoup de monde en fait, mais notamment des gens bien placés au sommet de l'État, comme on dit. Donc sur l'ensemble de ces Roms tziganes au niveau européen, les chiffres c'est compliqué, mais au moins 90% de ces gens-là n'ont pas bougé depuis l'époque moderne. Donc ça fait un certain temps finalement. Donc essayer d'interpréter les migrations récentes de dits Roms de Roumanie, de Bulgarie, depuis les années 90-2000 vers l'Europe occidentale comme la poursuite d'un voyage multiséculaire, c'est un petit peu fantasmagorique puisque les gens, ils font une migration d'un point A à un point B, mais au point A, ils y ont été pendant des générations et des générations et des générations, et ils se différencient pas du plombier polonais ou du l'entrepreneur portugais dans la maçonnerie. Bref, on est sur des migrations tout à fait banales.
Et puis finalement, on pourrait les voir comme des héros du capitalisme qui n'hésitent pas à tout quitter pour aller gagner de l'argent ailleurs.
Alors je vous reprends d'abord. Non, le héros du capitalisme effectivement est un nomade, puisqu'il circule de terminal d'aéroport en terminal d'aéroport. Il fait beaucoup de kilomètres, beaucoup plus que tous les gens du voyage de la Terre, mais il est habillé différemment. Il a l'air plus sérieux, il est rasé, et puis surtout, il a des amis, son voisin dans les médias, élu local, etc., etc. Donc non, ce n'est pas du tout la figure idéotypique du héros de la modernité, justement. Mais c'est même un scandale que les pauvres circulent de cette manière-là.
Oui, mais parfois on leur demande de circuler aussi.
Ils circulent sans revenir, manifestement, ça ne fonctionne pas.
Tu disais immigration banale à l'instant, en fait tu compares aussi, ça m'a frappé dans dans tes textes, c'est tu compares fréquemment cette immigration là aux immigrations finalement issues aussi de sociétés rurales comme l'immigration portugaise, italienne ou espagnole.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire les Roms n'ont pas inventé les bidonvilles. Les bidonvilles en France, il y a 30 ans et il y a 40 ans, il y en avait beaucoup plus et beaucoup plus gros que ceux qu'on connaît maintenant. Ça n'a rien à voir, c'est plus de 150 000 personnes, je ne sais plus, en 66 ou en 68, quand ils ont compté avant de vouloir les éradiquer. Aujourd'hui, on parle de 15 000 ou 16 000 et quelques personnes, donc c'est pas la même échelle. Et puis, ce n'est pas les mêmes tailles de bidonvilles non plus. Les bidonvilles de Champigny-sur-Marne, c'est plus de 10 000 personnes à un moment donné. Pareil au Framboisin, pareil à Nanterre, pareil à Noisy-le-Grand, si on reste en banlieue parisienne. Donc, des bidonvilles beaucoup plus gros. Aujourd'hui, un grand campement illicite. On ne dit pas bidonville, ça serait problématique.
On le dit plus.
Ça relèverait du ministère du Logement et de la Cohésion Sociale. On parle de campement illicite, ça relève du ministre de l'Intérieur. Point.
C'est plus simple.
Un gros campement illicite, c'est plusieurs centaines de personnes. C'est déjà énorme. Voilà, donc les mesures, les ordres de grandeur sont très différents. Et pourtant, les bidonvilles d'aujourd'hui sautent beaucoup plus aux yeux. Mais c'est pas parce qu'ils sont habités par des gens exotiques avec des traditions indiennes qui ne savent pas vivre comme vivent tous les bons Européens, mais c'est pour tout un tas d'autres raisons qui n'a rien à voir avec avec les fameux Roms ou avec une identité particulière. C'est d'abord parce que les bidonvilles d'aujourd'hui, ils sont plus dans la forêt ou à l'écart de la ville, ils sont au milieu de la ville.
Donc ils se voient plus.
Bah oui, la ville a avancé. Les pauvres ont reculé, mais pas tant comme ils ont pu. Et la ville a avancé et maintenant les bidonvilles sont dans des trous qui restent ou à bord des voies ferrées, du RER ou aux intersections autoroutières. Donc on les voit tout le temps, même s'ils sont plus petits. Deuxièmement, il y a une question symbolique aussi de la pauvreté. En milieu urbain, c'est moins acceptable qu'il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Donc là encore, ça saute plus aux yeux. Troisième élément, c'est que ces bidonvilles ne sont plus des bidonvilles selon les pouvoirs publics, mais des campements. Donc ce sont des nomades, donc on peut les faire gigoter et on peut les renvoyer sans cesse. Et donc ça fait 10 ans, 15 ans, c'est pas depuis le discours de Grenoble de Sarkozy, mais c'est depuis les années 2000, hein, que la politique générale, c'est l'évacuation du lieu de vie. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics ne voient pas ça comme des lieux d'habitat, hein, c'est pas des lieux de vie, c'est des choses à évacuer. Donc les gens circulent de terrain en terrain, de bidonville en bidonville, de squat en squat, plusieurs fois par an même dans certains cas. Donc ils bougent, ils essayent de rester dans le coin, parce que ils essayent d'y faire leur trou, mais ils bougent de manière contrainte et forcée d'un territoire à l'autre, et donc une ville qui voit arriver ceux qu'elle identifie comme des Roms, ou comme des Roms roumains, donc des nomades, etc., elle se demande pas à voir si elle vient de la ville d'à côté ou du département d'à côté, pour eux, ils viennent du pays d'origine. Sauf que dans l'immense majorité des cas, depuis 2005-2006, on a affaire aux mêmes groupes familiaux qui sont présents sur les mêmes territoires. Donc ça fait presque une dizaine d'années maintenant, certains sont là depuis 20 ans, mais en majorité, c'est depuis une petite dizaine d'années. Mais qui sont invités à la circulation, comme ça. Et je connais maintenant certaines familles qui ont investi de fait dans des vraies caravanes. Ce qu'elles n'avaient jamais vu avant d'arriver en France. Hein. En Roumanie, elles vivent dans des maisons à la campagne, comme tu le disais, sur un modèle de vie plutôt rural, avec des activités d'agriculture, microculture locale, et puis des activités d'artisanat pour certains, mais... Voilà, un mode de vie plutôt rural, en maison, en dur. Ici, ils découvrent la ville, ils découvrent les expulsions incessantes. Et donc, certains ont pu acheter des vraies caravanes qu'ils tractent et qui vont peut-être devenir des vrais gens du voyage, selon la définition légale dans quelques années.
Et donc là, tu nous parles effectivement de cette espèce de nomadisme forcé, en fait, et contraint administrativement sur le territoire français. En ce qui concerne l'immigration d'origine. Alors, mm-hmm. Il y a une formule aussi, tu dis, mais c'est tout simple, mais ça rappelle les choses. Ne jamais oublier qu'un immigré est d'abord un émigré.
Oui, il part de quelque part pour des raisons.
Voilà.
Pas pour le plaisir de voyager. Ouais.
Alors pourquoi viennent-ils chez nous, ces gens-là ?
Eh bien, ceux qu'on appelle les Roms, alors essentiellement roumains, un peu bulgares, vivant en bidonville, ils viennent en France, mais c'est pas la destination principale, c'est plutôt Italie-Espagne, mais on reste sur le cas franco-français, ils viennent en France pour les mêmes raisons que leurs voisins. Non Roms, des mêmes villages et des mêmes villes.
Sans blague.
Je jure. Qui sont des raisons pas très sexy et qui n'ont rien à voir avec le nomadisme et la génétique de l'Inde, mais qui ont à voir avec la dégradation des conditions de vie pour tous les pauvres de ce pays, pauvres et moyens pauvres, hein, depuis 20 ans, depuis la mise en place de cette fameuse transition économique. Aujourd'hui, la Roumanie, c'est à peu près 20 millions d'habitants. Ils perdent des habitants, hein, depuis... quelques années. C'est en gros 20 millions d'habitants. Sur ces 20 millions, il y en a au moins 4 millions qui sont partis au cours des 20 dernières années. Donc quasiment 20% de la population. C'est gigantesque, hein. Avec des gens qui maintiennent, qui font des allers-retours, évidemment, c'est pas non plus très très loin, donc il y a un pied là, un pied là. Mais au moins 4 millions d'expatriés pour des raisons économiques. Les migrations des fameux Roms de Roumanie, elle est en tout point comparable dans ces raisons. Les gens partent pour les mêmes raisons. C'est parce qu'ils pensent que s'ils restent, eh ben, ils ne vont pas pouvoir offrir un avenir à eux-mêmes et à leurs enfants, puisqu'ils gagneront quelques centaines d'euros et que l'essence coûte aussi cher qu'ici, etc. etc. Et en quantité, elle est aussi tout à fait équivalente, hein, puisque donc 20 millions, 4 millions pour les Roumains en général. Si on estime qu'en Roumanie, il y a à peu près 1 million de personnes qu'on pourrait définir comme étant des Roms, c'est très compliqué là aussi, mais en gros, à la louche, c'est à peu près aussi entre 100 et 150 000 personnes parmi ce million de Roms qui sont partis au cours de la même période pour les mêmes raisons, entre 10 et 20%. C'est tout à fait équivalent. Voilà, donc dans les causes du départ, et même dans les modalités migratoires pour une bonne partie, il n'y a pas de distinction qu'on puisse faire entre les Roumains roumains et les Roms roumains.
Et alors, pour rassurer Manuel Valls, qui, on le sait, nous écoute...
Bien sûr, je lui ai demandé.
On le sait, voilà. Rassure-nous aussi, hein, les Roms qui viennent en France, en fait, ils ont l'intention de rester là, manger le pain des Français longtemps, ou est-ce qu'ils ont prévu de revenir un jour? Comment ça se passe?
De revenir où?
De revenir chez eux.
Ah, ou à l'origine. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Eh ben, comme tous les migrants du monde, la vie est un petit peu plus compliquée que ce qu'on apprend dans les préfectures. On ne choisit pas son pays d'immigration pour, comme je disais, pour sa littérature ou pour ses valeurs. Mais parce qu'on y connaît des gens, qu'on pense qu'on va pouvoir travailler, gagner de l'argent, et puis se faire un trou, et puis peut-être quand on aura réussi, on rentrera à la maison, et puis ça sera mieux, etc. Et peut-être, et puis pour certains oui, pour certains non, d'autres restent dans l'entre-deux, bref. Et puis d'autres restent dans la circulation aussi, très très longtemps. Même des gens qui sont en France, peu importe le pays d'origine, depuis 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, qui continuent à avoir un pied ici ou un pied là. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est vrai que dans la représentation actuelle du bon migrant, c'est absolument insupportable. Le bon migrant, c'est la personne qui arrive ici, qui dit « je n'ai pas de pays d'origine ». Enfin, si j'en ai un, mais je ne l'aime pas, celui que j'aime, c'est le vôtre, parce que j'aime vos musées, etc. Je veux devenir, dès que possible, imposable sur le revenu. Mes enfants ont fait de grandes études.
Je chante la Marseillaise.
Je chante la Marseillaise au matin, etc. Enfin, bref, voilà. C'est une vision absolument qui semble formulée comme ça, un petit peu débile de perception de la migration. Et pourtant, il est assez frappant de voir comment elle est répandue. Depuis quelques années, c'est assez récent finalement, mais répandu partout, partout. Je ne parle pas que de l'UMP et de la droite forte, je parle aussi du Parti Socialiste, voire même de certains Verts. Enfin bon, dans des partis de gauche, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel. On distingue le bon du mauvais migrant. Et le bon migrant, c'est quelqu'un qui a une volonté d'intégration.
En même temps, c'est une très vieille distinction qui revient là, hein. C'est celle du bon pauvre et du mauvais pauvre. Et
le Rome du bidonville,
le Rome, c'est typiquement le mauvais pauvre. Il n'est pas humble.
Non, il n'est pas humble. En plus, il vit en famille, il n'est pas désocialisé, il continue à avoir une vie sociale, même quand il vit dans des bidonvilles où il y a des rats et dans la boue. Il n'attend pas que la bienfaisance publique, bon, il a raison d'un autre côté, lui trouve des solutions qu'en plus elle n'a pas. Il continue à vivre sa vie malgré tout, etc. etc. C'est pas pour idéaliser le bidonville ou autre, mais il se trouve que dans les bidonvilles, et c'était même valable aussi dans les années 60-70, hein, je vous invite à voir les travaux de Colette Pétonnet, pour ceux qui ne connaissent pas, première anthropologue urbaine de France, Colette Pétonnet, qui a travaillé sur les bidonvilles en banlieue parisienne dans les années 70, avec un livre qui s'appelle « On est tous dans le brouillard ». Et qui est une superbe ethnographie des bidonvilles où elle montre comment est-ce que même si c'est pas bien et que ça serait mieux si c'était autrement, c'est malgré tout des espaces d'intégration, au sens large du terme, pas au sens ministériel, de sas d'intégration, d'où pour des populations rurales qui arrivent en ville, qui peuvent continuer à avoir une vie familiale, des lieux d'habitat privé, faire jouer des solidarités entre proches, etc., etc., et petit à petit se faire une place. En tout cas, ça a pu être une solution pour certains plus efficace que la cité de transit et le grand ensemble de logements sociaux.
Voyons, on va faire une petite pause.
Heureusement qu'ils font de la bonne musique.
Voilà.
Comme l'a dit José, heureusement qu'ils font de la bonne musique. Voilà, donc là, vous allez écouter Martin.
Ah mais non, mais ça, je sais pas, c'est Yougoslave, ça, des années 60. Et Jean, c'est très très mal écrit.
Jean, tu connais...
Serbezovski.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Libertà 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous poursuivons donc pour la troisième et dernière partie de l'émission Jeudi Noir, notre entretien avec Martin Oliveira, qui a écrit La tradition de l'intégration, une ethnologie des Roms gabori dans les années 2000, aux éditions Petra, ainsi qu'un livre plus petit, plus accessible sans doute, Martin Oliveira, donc Rome en bidonville, aux éditions de la rue d'Ulm. Alors, tu avais une question à poser, Jean-Mathias ?
Oui, une question courte, hein, une question courte comme je les aime. Non, je voulais juste que tu nous dises un petit peu deux mots, là. Tu nous as donné un peu beaucoup d'informations là, sur voilà, l'histoire de la notion même de Rome, sur la manière dont le terme de Tzigane s'était construit par les États européens, sur tout ça. Sur le nomadisme forcé aussi, administratif. Je voudrais maintenant que tu nous dises peut-être deux, trois mots quand même pour terminer sur tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le Rome inintégrable par essence et le Rom qui veut pas travailler, parce que les deux vont un petit peu ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, c'est-à-dire en quoi le Rom est-il inintégrable dans la République?
C'est-à-dire que c'est là encore une catégorie utile, comme on disait au début, pour faire du tri parmi les semblables. Décider qu'une partie de la population, peu importe le terme qu'on lui donne, on peut appeler ça les scrunch, mais personne n'aurait su ce que c'était. Donc Rome, c'est plus efficace, puisqu'on dit que c'est comme les tziganes de l'an 2000. Décider qu'ils ne sont pas intégrables, ben c'est pratique, comme ça on n'a rien d'autre à faire que de les envoyer plus loin. Dans un contexte de pénurie généralisée, on n'a pas abordé la question, mais c'est valable en France, mais c'est valable ailleurs en Europe, où avec finalement les pauvres qu'on fabrique, que le système socio-économique fabrique.
À l'échelle européenne.
À l'échelle européenne, oui, tout à fait.
C'est okay.
Oui, parce que si les gens, pour revenir rapidement sur l'émigration roumaine, ils sont partis depuis une vingtaine d'années, en masse, pourquoi? Parce qu'en Roumanie, comme dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale, et comme ailleurs un petit peu plus tard, s'est mis en place une forme de néolibéralisme assez sauvage, qui a bien profité à certains, souvent ceux d'hier d'ailleurs, c'est les mêmes, et assez peu à la grande majorité. Et donc, dans un contexte de pénurie, ou de ce qu'on imagine être une pénurie généralisée en termes de moyens pour apporter des réponses aux inégalités sociales, c'est pratique d'avoir une catégorie naturelle, ethnique, qui est elle-même responsable de sa précarité. Dire que les Roms, dans tous les cas, ils ne veulent pas ou on ne peut pas les insérer parce que c'est dans leur nature, ben ça tombe assez bien, puisque les services sociaux n'ont pas de solution, que l'hébergement d'urgence ou pas d'urgence lui-même n'a pas de solution à proposer, que l'éducation nationale a dans bien des cas pas vraiment de solution à proposer pour des primo-arrivants ou pour même des gens pas du tout primo-arrivants mais qui ont des difficultés sociales, familiales, particulières, etc. etc. Donc, comme ça, on se dédouane et on arrive à ne pas les prendre en considération. En plus, c'est de leur faute.
Avec une cerise sur le gâteau, le fait qu'on oublie quand même de préciser souvent, c'est que les Roms n'ont pas le droit de travailler.
Oui, alors ça va changer, mais depuis 2007, effectivement, en 2007, ils sont devenus, Roms, c'est pas une citoyenneté, ils sont citoyens roumains, bulgares ou autres. Donc, ils sont devenus européens, membres de l'Union européenne, 1er janvier 2007. C'est vachement bien, l'Union européenne. Ils étaient rentrés dans l'OTAN avant. Et à l'époque, ils étaient très contents, je me rappelle, parce que j'étais là-bas. Donc, depuis 2007, ils sont ressortissants communautaires, comme on dit. Sauf que, depuis 2007, la France et d'autres pays, mais on parle de la France ici, maintient un régime transitoire, c'est-à-dire un régime juridique particulier qui, de fait, les empêche de travailler légalement. Puisque pour pouvoir travailler légalement, il faut avoir un titre de séjour avec autorisation de travail. Et pour avoir un titre de séjour délivré par la préfecture avec autorisation de travail, il faut une promesse d'embauche. Donc il faut un gentil patron qui soit d'accord pour vous rédiger une promesse d'embauche, faire les démarches en préfecture, faire la queue à Bobigny, si on parle de la Seine-Saint-Denis.
Et à qui ça va coûter de l'argent ?
Alors ça coûtait, ça ne coûte plus depuis, on est socialiste maintenant, donc ça a changé. Hein. Mais jusqu'à 2012, ça coûtait l'équivalent d'un mois de salaire de celui qui l'allait embaucher. Il fallait qu'il verse cet argent-là à l'OFI. À l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour financer l'intégration choisie des immigrés choisis. Ça devient très compliqué. Maintenant, il ne faut plus payer, mais de fait, ce n'était pas un problème, la taxe, parce que les gens s'entendaient, quitte à la rembourser au patron sur un mois, deux mois, trois mois. Non, le problème fondamental, c'est encore la pénurie. C'est que les services préfectoraux, dans bien des endroits, encore à Bobigny, n'ont pas les moyens de leurs ambitions, et que pour avoir, même quand vous avez tout bien dans le bon dossier, une bonne promesse d'embauche, tous les papiers qui vont bien, il faut aujourd'hui 6 mois, 8 mois entre le premier rendez-vous et les suivants pour obtenir le titre de séjour. Donc il faut vraiment un gentil patron qui attende 6 mois, 8 mois pour pouvoir embaucher la personne.
Et quand il y a gentil patron, il y a intégration ?
Ben, quand il y a gentil patron, quand les gens peuvent bosser normalement, et intégration, je ne sais pas ce que c'est, toujours pas, hein, mais en tout cas, après, ils ne demandent rien à personne, les gens gagnent leur argent, ils trouvent du logement, et puis après, ils deviennent invisibles. C'est quand même un petit peu la volonté première. Le but, il n'y a pas de revendication collective des Roms, des dits Roms migrants en France, d'avoir un traitement en particulier du fait d'une culture ou de je ne sais quoi de particulier. Les gens, ils veulent trouver une place d'eux-mêmes, sans demander rien à personne, et se rendre invisibles. Certains y arrivent, sans aide aucune, sans assistance sociale, hein, depuis 15 ans, 20 ans qu'ils sont là, bien évidemment. Ils ont réussi à trouver une location, à faire des papiers par des copains, et, par des militants ou autres, et à se faire leur trou, et ils ont besoin d'aucune aide particulière.
C'est bête à pleurer, mais bon, Kafka se marrerait sans doute bien s'il était encore vivant.
Je vais te poser, pour terminer, peut-être trois questions courtes et avec trois réponses courtes.
Trois questions courtes.
Et alors, attendez, première question. Alors, est-ce que les Roms sont persécutés en Roumanie ? Deuxième question, je te les donne les trois, après tu te débrouilles avec tout ça. Première question, est-ce que les Roms sont persécutés en Roumanie ? Deuxième question, mais pourquoi les Roms font-ils mendier leurs enfants ? Troisième question, comment on s'y prend lorsque, effectivement, on rencontre une famille Rome et qu'elle souhaite scolariser ses enfants en France ?
Alors, première question, c'est déjà un gros paquet, ça.
Oui, non.
Non, c'est pas possible de répondre à une pareille chose, je suis désolé. Tous les Roumains... non, ça va pas cette formulation. Les Roumains n'aiment pas les Roms, d'accord ? Mais les Roms de Roumanie, qui sont eux-mêmes Roumains, citoyens roumains, nationaux roumains, n'aiment pas les Roms. Parce que c'est un trait national fondamental, on l'a parlé au tout début, dans la structuration de l'identité nationale roumaine. Donc tous les Roms ou Tziganes roumains que vous rencontrerez vous diront du mal des Roms et des Tziganes, en général. C'est normal, comme de dire que la terre est ronde. Hein. Mais ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils ne parlent pas de leur famille ou de leur communauté locale. Ils parlent des autres, en général, ceux de la télé, de la capitale, etc. etc.
Du Rome fantasmatique.
Donc, Oui, en même temps, en Roumanie, cet anti-tsiganisme, comme on dit, est fort. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas d'inhibition, tout le monde peut en parler, le Premier ministre, comme au Café du Commerce, les tsiganes ceci, les tsiganes cela. Mais les Roms aussi font la même chose. Et ça tranche assez avec les relations locales, en fin de compte, où pour le coup, les gens ont toujours vécu ensemble. Ils ne sont pas forcément tout et pour tout identiques, ils ne vont pas forcément se marier, et encore, le mariage mixte est une réalité importante. Mais il y a voilà, plutôt des relations de voisinage, d'interpénétration et une proximité de fait culturelle, surtout en milieu rural, qui est très forte et qui tranche avec cet anti-tsiganisme dont on nous rebat souvent les oreilles. Et finalement, pour finir de répondre rapidement à cette question, Jean-Mathias, les Roms sont persécutés en Roumanie? Non, les gens qui sont identifiés comme tsiganes au guichet administratif, dans la justice, à l'hôpital, enfin dans ces relations un petit peu impersonnelles de la vie dite moderne, les gens identifiés comme tziganes, en général, effectivement, bénéficient d'un traitement de défaveur. Mais ils peuvent être hommes ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut être identifié comme tzigane parce qu'on a l'air pauvre, ceci, cela. Voilà, donc il faut faire le distinguo entre cet anti-tziganisme très largement répandu dans les discours et dans les rapports urbains, impersonnels,
administratifs.
Ouais. Voilà, avec les réalités locales où là c'est quand même une toute autre histoire, où bah, oui, les gens ont tous des amis roms et réciproquement, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, c'est pas pour cette raison-là qu'ils partent. Mais pour des raisons économiques, c'est plus difficile à traiter que les discriminations, mais c'est vraiment pour ça.
Alors, la mendicité.
La mendicité, c'est
pourquoi,
très très mal.
Non, pourquoi ces gens mendient avec leurs enfants?
D'abord parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, qu'il faut gagner de l'argent, je suis obligé de faire vite, et que l'argent on le trouve là où il est. Pourquoi avec leurs enfants? Bah parce que les enfants vont pas à la crèche, parce qu'ils vont pas à la halte garderie, parce qu'ils sont allaités, parce qu'on va pas les laisser sur le terrain ou sur le bidonville quand il y a personne pour les garder. Bref, c'est pas pour apitoyer le chaland. Depuis le temps, ils auraient compris que pour des Français c'est tout à fait contre-productif, enfin pour des Français de la classe moyenne c'est tout à fait contre-productif de mendier avec un bébé, mais c'est parce que les gens et notamment les femmes ont pas le choix et qu'il faut bien ramener 2-3 euros par jour.
Dernière question, donc, que tu as oublié.
Ah oui.
Comment on fait? On s'y prend comment? Quand, effectivement.
Pour la scolarisation.
La scolarisation. Ah ben, c'est un facteur, effectivement, important.
Oui, c'est important. Et en même temps, on est en France, là encore, tu m'emmènes dans des trucs dangereux. Hein. On pense aussi, les pauvres mettaient leurs enfants à l'école, ils seraient plus pauvres au bout d'une génération. Ça se passe pas tout à fait comme ça.
C'est un petit peu plus long.
L'école, c'est bien, c'est important, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie personnelle et du développement familial. Donc, c'est une chose importante pour se faire un trou localement, pour tisser des liens, évidemment. Mais si les gens ont pas d'habitat, ont pas de ressources pérennes économiquement, voilà,
et on peut dire que c'est
un petit peu... Voilà, et se font vider toutes les deux semaines, ou tous les mois, ou tous les trois mois, évidemment que c'est pas la priorité, et c'est tout à fait normal. Après, tout dépend du maire de la commune, il y a beaucoup de communes où les maires refusent d'inscrire les enfants en disant « Ah bah ils sont pas là depuis longtemps, de toute façon ils vont partir, parce qu'ils vont être expulsés, donc c'est pas la peine », et ça nous ramène, encore une fois, au contexte de pénurie généralisée, où cette fameuse catégorie des Roms, elle est très efficace pour faire du tri et dire « Ah bah non, ceux-là, même s'ils auraient droit, et ben, de fait, c'est pas la peine puisqu'ils veulent pas. »
Bon, bah écoute, merci pour ces trois réponses. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On accueillait donc Martin Oliveira, auteur de La tradition de l'intégration aux éditions Petra, une ethnologie des Roms gaborés dans les années 2000. Mais aussi, il a un petit livre voilà, qu'on vous conseille tout autant que le premier, qui s'appelle Roms en bidonville. Martin Oliveira, toujours aux éditions de la rue d'Ulm. Donc, bah écoute, on était ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous.